Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Zara de Saint-Hilaire qui a publié en 2006 un « Que sais-je » consacré à l'insomnie. Zara de Saint-Hilaire, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre présence dans nos studios. Alors je précise que Zara de Saint-Hilaire est diplômée en thérapie comportementale et cognitive, docteur en neurosciences. Elle travaille aujourd'hui au département de psychiatrie adulte des hôpitaux de Genève et collabore avec l'Institut René Descartes. Madame de Saint-Hilaire a également mené d'importants travaux de recherche avec le CNRS au Collège de France. Si je vous dis que l'insomnie est une illusion de fainéant, certains auditeurs qui ont du mal à dormir, voire ne dorment pas du tout, risquent de sauter au plafond. On doit pourtant cette jolie citation à Daniel Pennac, l'auteur de La Petite Marchande de prose. Alors c'est vrai, certains insomniaques considèrent que cette pathologie leur permet d'avoir plus de temps puisqu'ils dorment moins, et en outre une ouverture sur le monde de la nuit qui est totalement inconnue aux autres. Mais les conséquences de l'insomnie peuvent être dramatiques, somnolence, irritabilité, dépression, hypertension. L'insomnie ronge celui qui ne dort pas, mais elle abîme aussi son organisme. Alors si l'insomnie est aujourd'hui consacrée problème de santé publique, c'est une question vieille comme le monde. Déjà dans l'Antiquité, pour parvenir à un sommeil paisible et récupérateur, on invoquait le dieu Hypnos, le fils de la nuit, à père de Morphée. Hypnos était doué de terribles dons puisqu'il endormait même les dieux. C'est Hippocrate qui, le premier, a ensuite décrit l'insomnie dans ses textes. Hippocrate estime qu'elle est causée par la mélancolie, du terme grec qui signifie bile noire. Alors depuis, évidemment, nous avons fait bien du chemin et nous allons pouvoir dresser un tour d'horizon de la question avec Zara de Saint-Hilaire. Alors dans un premier temps, comment pourriez-vous nous définir l'insomnie ?
Eh bien d'abord, je vais vous dire merci de m'avoir invitée dans cette émission. Je suis absolument ravie, enchantée de donner quelques explications à votre public. Alors l'insomnie a une définition bien précise. L'insomnie est une plainte. Pourquoi cette définition est si précise que cela? C'est que si vous dormez peu, si vous dormez quelques heures, mais que le lendemain, vous vous en apercevez de rien, vous fonctionnez bien et que vous vous plaignez pas de votre nuit, vous n'êtes pas considéré comme insomniaque. Mais une autre personne avec la même durée du sommeil, si le lendemain se dit « Ah, j'ai mal dormi, aujourd'hui je ne vais pas pouvoir aller au travail ou bien je me sens fatiguée », on considère que cette plainte pourrait être une plainte d'insomnie. Alors voilà, l'insomnie par définition est une plainte. Si on ne se plaint pas, on n'est pas insomniaque. Maintenant, même si on objective le peu de sommeil d'une personne, c'est-à-dire comment on peut objectiver par la mise en place des électrodes, vous voyez, alors ils viennent au laboratoire, ils dorment, etc. Mais si on est objectif chez une personne qui ne dorme pas beaucoup, par exemple 4-5 heures du sommeil ou un sommeil fragmenté ou des réveils au milieu de la nuit, mais que cette personne ne se plaint pas, on ne va pas lui dire « Madame ou monsieur, vous êtes insomniaque » parce qu'il n'y a pas de plainte.
C'est-à-dire qu'un petit dormeur n'est pas insomniaque.
Non, un petit dormeur dort la quantité que son horloge biologique et ses gènes et, si vous voulez, son héritage lui commandent de dormir. Parce que nous pouvons être petit dormeur, moyen dormeur ou grand dormeur. Couche tôt, couche tard, lève tôt, lève tard aussi, vous savez. Donc, il ne faut pas penser que si on dort peu, on est forcément insomniaque. Il faut trouver son propre rythme, vous voyez. Ce rythme déjà se dessine depuis l'enfance, depuis la petite enfance. L'enfant, par exemple, dans la même famille, plusieurs enfants pourront avoir des rythmes différents. Un petit garçon pourrait être couche tôt, sa petite sœur pourrait être couche tard, et le petit garçon pourrait être lève tard, sa petite sœur pourrait être lève tôt. Alors, les parents, évidemment, je les comprends parce que les enfants doivent aller à l'école le lendemain. Ils sont contraints à une hygiène quand même de vie. Mais les parents qui forcent leurs enfants d'aller tôt au lit lorsque l'enfant est couché tard, par son héritage, par son patrimoine génétique, vous savez, on peut absolument après altérer et perturber son rythme de veille-sommeil. Parce qu'il y a une balance de veille-sommeil.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait mieux qu'un enfant qui a besoin d'aller
oui,
se coucher tard, les parents le laissent regarder la télévision jusqu'à...
Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui me posent cette question. Je dis, mais laissez cet enfant aller au lit quand le sommeil vient. Parce que l'endormissement, c'est comme un train qui passe. Et l'enfant a ça d'une façon instinctive. Dès qu'il a sommeil, je ne sais pas si vous avez remarqué, un enfant passe très rarement par une période de somnolence. Il passe de l'éveil subitement dans le sommeil. Alors, ce qui fait que c'est mieux de les laisser avoir le rythme.
D'accord. Donc, le souci, ça va être dû aux contraintes environnementales, puisque l'enfant
tout à
doit
fait,
aller à l'école.
Ça.
Donc, on est obligé de maintenir des règles
tout à fait.
Sommeil.
Tout à fait. Mais plus ou moins, il faut adapter. Je sais, parce que les écoles commencent tôt, etc., etc. Mais tout de même, il ne faut pas trop dérégler un rythme biologique qui existe, vous savez, et qui est là chez nous.
C'est-à-dire que le fait de ne pas respecter ce rythme biologique
ça pourrait perturber, voilà.
Ça pourrait créer des insomnies.
Tout à fait, absolument. Un dérèglement de l'horloge, un dérèglement de... C'est la même chose, inversement. Par exemple, les jeunes universitaires ou les jeunes entre 18 et 25 ans qui sortent beaucoup le soir et qui se couchent très tard. Vous voyez, et si on se couche tous les soirs, par exemple, en faisant la fête, etc., ce qui est formidable, à 4 heures du matin, on se met dans un décalage, si vous voulez, de phase.
D'accord. Et alors donc, ces insomnies, à quoi sont-elles dues?
Les insomnies de décalage?
Les insomnies, de manière générale, quelles sont les causes d'insomnie?
Les causes, enfin, elles sont multiples, vous savez. L'insomnie pourrait être due à des facteurs de votre environnement. Déjà, dans un premier temps, le bruit, la chaleur, un mauvais lit, une mauvaise alimentation, par exemple, trop de café, Coca-Cola, des excitants, beaucoup de viande rouge. Vous savez, tout ce qui est protéinique est très excitant. Alors, le régime alimentaire joue également un rôle. Deuxièmement, l'insomnie pourrait être due à des facteurs psychologiques. Les états anxieux, l'insomnie est un des symptômes premiers de la dépression. Et inversement, l'insomnie chronique pourrait également induire de la dépression.
Comment peut-on savoir? Est-ce que c'est la dépression qui entraîne l'insomnie ou est-ce que c'est l'insomnie qui entraîne la dépression? C'est une étude au cas par cas de la personne par une étude de son sommeil.
Alors, écoutez, ça se passe comme ça. C'est que lorsqu'on veut faire le diagnostic d'une insomnie, le symptôme d'insomnie chez le dépressif, le premier signe, c'est que cette personne se réveille très tôt le matin et a beaucoup de difficultés d'endormissement. Ces difficultés d'endormissement, qui sont vraiment des difficultés très importantes, sont les premiers symptômes de la dépression chez un déprimé. Et après, à ça, on associe les signes cliniques de la dépression. Par exemple, perte d'élan, manque d'envie, un comportement où on se retire un peu, irritabilité, etc., etc. Maintenant, l'insomnie chronique, qui, selon des travaux très récents, chez certains insomniaques chroniques, cette insomnie pourrait déboucher sur la dépression. Pourquoi? Parce que l'insomnie a duré trop longtemps, des années, et que la personne tombe dans une situation de détresse, et cette détresse pourrait déboucher sur la dépression en disant « mais je ne dors pas, mais pourquoi je ne dors pas, qu'est-ce que je dois faire ?» ainsi de suite. C'est pas exactement pareil, vous voyez.
C'est-à-dire que la crainte de l'insomnie s'auto-alimente, c'est-à-dire on a peur de ne pas dormir, donc on ne dort pas, donc on a des conséquences.
Voilà. Alors, il y a ce cercle qui se constitue est appelé le cercle vicieux de l'insomnie. Que veut dire? Ça veut dire que un jour, à cause d'une situation, d'un événement, on dort mal. Cette forme d'insomnie qui est absolument transitoire, qui devrait être transitoire, continue.
Alors, quand on dit juste transitoire, c'est-à-dire qu'elle dure moins de 3 semaines, c'est
voilà,
ça?
Voilà, occasionnel. Ça veut dire que c'est occasionnel, c'est dû à un deuil, par exemple, je ne sais pas, à un petit événement triste, ce qui est normal parce que nous avons des émotions et ces émotions devront donner parfois des petits troubles du sommeil. Mais si cette insomnie dure dans le temps, à distance de cet événement qui l'a déclenché, c'est là où nous intervenons et on pose la question, pourquoi cette personne, cet insomniaque, à distance d'un problème, encore maintient ces problèmes du sommeil. Et c'est là où il faut aller chercher dans le tempérament et le caractère et la personnalité de l'insomniaque. Il faut essayer de chercher, voir s'il n'y a pas un terrain anxieux. Il faut essayer de voir si cette personne n'est pas constamment sous stress. Et ensuite, nous avons des tests où nous pourrons très bien déceler, si vous voulez, des croyances que nous appelons des croyances dysfonctionnelles qui se sont formées, qui se sont endurcies. Par exemple, si je ne dors pas, je ne fonctionne pas. Ce soir encore, je ne vais pas dormir. Le sommeil, l'insomnie va nuire à ma santé physique, etc., etc. La liste est longue. C'est un questionnaire qui se trouve, pour ceux qui aimeraient consulter, aussi bien dans l'ouvrage que sais-je, que dans celui édité chez Hermann.
Le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui se croient insomniaques et qui ne le sont pas. Vous parlez dans votre ouvrage en quelque sorte de pseudo-insomnie.
Voilà, alors on appelle ça l'insomnie paradoxale. Peut-être, professeur, je vais vous en parler du sommeil paradoxal, mais ça, c'est l'insomnie paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que ces personnes sont persuadés qu'ils ne dorment pas. Nous avons des consultations où ils viennent, ils disent « Ah, hier soir, je n'ai pas fermé l'œil, je pense que j'ai dormi peut-être 15 minutes. » Et lorsque vraiment vous essayez d'objectiver par des enregistrements du sommeil ou par d'autres techniques, comme par exemple la mise en place de l'actimètre à leur poignet pendant quelques jours.
Juste l'actimètre, si vous pouvez préciser ce que
Alors, l'actimètre ressemblerait à une montre sur
D'accord.
votre poignet, mais ce n'est pas une montre, c'est une petite boîte qui contient toute une petite installation électronique. Ces installations permettent de détecter votre mouvement, c'est-à-dire l'alternance du repos et de l'activité musculaire. Alors, on peut très bien déceler, par exemple, lorsqu'une personne se détend ou est au lit, parce que la personne doit le porter, n'est-ce pas, constamment, sauf lorsqu'on prend une douche ou un bain. Et alors, l'analyse des résultats de l'actimètre montre bien les périodes d'activité et de repos.
Est-ce que cet actimètre permet également de mesurer les mouvements effectués par les patients dans leur sommeil, c'est-à-dire s'ils
se retournent
Tout à fait,
voilà, oui. S'il y a beaucoup d'agitation, d'activité, si la personne s'est levée du lit, s'il y a par exemple, je ne sais pas, la lumière a été allumée, la personne a lu, etc. etc. Tout est décelé. Mais évidemment, ce n'est pas aussi précis qu'un examen de type polysomnographique, c'est-à-dire avec la mise en place des électrodes sur le cuir chevelu. Parce que avec ces examens de polysomnographie, on peut déceler les différents stades du sommeil.
Et est-ce que l'examen par la polysomnographie permet de connaître de manière certaine l'origine de l'insomnie?
Non, on ne peut pas connaître vraiment l'origine de l'insomnie, mais on peut voir les formes de l'insomnie. Est-ce que c'est une insomnie d'endormissement? Est-ce que c'est une insomnie de maintien? Est-ce que
l'insomnie... Je me parle d'insomnie de maintien, c'est-à-dire...
C'est-à-dire qu'on ne maintient pas vraiment un temps de sommeil continu au cours de la nuit.
Il y a plusieurs éveils.
Il y a plusieurs éveils et le sommeil est fragmenté. Nous appelons un sommeil fragmenté. L'alcoolique, par exemple, a un sommeil très fragmenté parce que quand on boit de l'alcool, on s'endort. Mais au milieu de la nuit, on peut se réveiller par les processus de déshydratation. Mais chez un alcoolique chronique, toute sa nuit est comme ça, fragmentée. On appelle même le sommeil éclaté, vous voyez,
D'accord.
de l'alcoolique.
Et on distingue donc l'insomnie qui se manifeste par une difficulté d'endormissement, celle qui se manifeste par des éveils multiples tout au long de la nuit, et l'insomnie qui se manifeste par un réveil précoce.
Voilà, l'insomnie qui se manifeste. Alors maintenant, on peut avoir une de ces formes ou les trois associées. Donc, l'insomnie pourrait être mixte, à la fois d'endormissement et du maintien. L'insomnie pourrait être que l'insomnie d'endormissement. L'insomnie pourrait être une insomnie du maintien. Et les réveils précoces du matin sont vraiment très embêtants parce que les personnes ont beaucoup de problèmes pour se rendormir après. Tandis que la forme d'insomnie d'endormissement est beaucoup plus facile de traiter.
Très bien. Alors, nous allons revenir dans quelques instants sur la question de l'insomnie. Je rappelle que nous recevons Zara de Saint-Hilaire, grande spécialiste de la question, et nous faisons une petite pause avant de nous retrouver. À tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean Do, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'insomnie. Je rappelle que nous recevons Zara de Saint-Hilaire, spécialiste de la question. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des différentes causes de l'insomnie, mais sommes-nous tous égaux devant le problème, Madame de Saint-Hilaire?
Eh bien non, je ne pense pas que nous soyons égaux devant ces problèmes, parce que d'abord nous ne sommes pas égaux devant le sommeil. Comme nous avons déjà discuté dans la première partie de votre émission, nous pouvons être petits, gros dormeurs, moyens dormeurs, couche tôt, couche tard. L'insomnie, c'est exactement pareil, vous savez, nous ne sommes pas du tout égaux. D'ailleurs, chez la même personne se plaignant de l'insomnie, si on analyse les nuits qui se succèdent, deux nuits ne se ressemblent pas. Déjà, la même personne, à l'intérieur de son propre sommeil, ses nuits ne se ressentent pas. Donc, il y a une grande différence interindividuelle, intra-individuelle, etc., etc. Et donc, voilà, nous ne sommes pas égaux. Et les hommes et les femmes sont différents. Il y a une relation avec, si vous voulez, avec le sexe. On prétend, maintenant les travaux montrent que à âge égal, les femmes se plaignent beaucoup plus de l'insomnie.
D'accord.
Mais avec l'âge,
quelques chiffres,
ça s'arrange.
Peut-être.
Alors, les chiffres, vous savez, il y a un pourcentage que je dis dans mon livre, mais je ne sais pas ça vraiment par cœur. Ce n'est pas important, le chiffre. Mais en tout cas, le nombre des femmes est plus grand. Et donc, avec l'âge, ça s'inverse. Ce sont les hommes âgés au-delà de 70 ans qui se plaignent plus de l'insomnie, qui dorment moins bien. Et voilà, ainsi de suite. Vous voyez, vous savez très bien que maintenant, pour parler du sommeil et cette différence, qu'au cours de l'évolution de l'âge, le nourrisson dort pratiquement tout son temps. Vous savez, à 80%, il est en sommeil paradoxal. Alors, le sommeil prend son allure définitive à peu près à l'âge de 20 ans, à l'âge entre 18 et 20 ans. Et ensuite, vous savez, avec l'âge, forcément, sans être insomniaque, le sommeil change d'architecture. Et le sommeil change de forme, les stades changent de quantité. Mais maintenant, si les personnes âgées se plaignent de l'insomnie, cette insomnie est beaucoup plus manifeste chez les messieurs.
Mais pourquoi cette insomnie est plus manifeste chez les messieurs après un certain âge? Et qu'est-ce qui fait que la proportion s'inverse?
Alors maintenant, vous savez, il y a quand même une question des neurotransmetteurs. Parce que notre sommeil, notre balance veille-sommeil est... Tout notre système biologique est sous la dépendance des hormones et des neurotransmetteurs. Il se peut qu'il y ait une petite différence entre l'activité des deux systèmes chez les messieurs et chez les dames. Mais il y a aussi une chose, c'est que peut-être que les messieurs sont beaucoup plus vulnérables et que moindre chose, ils supportent moins bien, vous savez. Et que les dames se font mieux à ça.
Je crois que la ménopause a un impact sur la qualité
alors,
du sommeil.
Alors, la ménopause, c'est autre chose. Ça, c'est, je parlais des personnes âgées au-delà de 70 ans. La ménopause, c'est aux alentours de 50 ans chez les femmes. Ça, c'est hormonal. Absolument, ça a une conséquence sur le sommeil. Ce n'est pas quelque chose de durable. C'est pendant cette période où cette insomnie est également associée à des modifications de la température corporelle. Vous savez, ces hot flashs très souvent décrits par les dames, etc., mais qui s'arrangent une fois que la période de ménopause est traversée.
Vous parliez de l'âge des personnes âgées de plus de 70 ans. Il semble que les problèmes d'insomnie soient de plus en plus récurrents chez les personnes âgées. Pourquoi? Quel type de
alors,
problème?
Alors, chez les personnes âgées, vous savez, le problème se situe également ailleurs, vous savez. Pourquoi? Parce que les personnes âgées se couchent très tôt. Alors ça, c'est un problème très important. Pourquoi? Parce que ils sont à la retraite, ils ont plus que 70 ans, ils ont moins d'activité à la maison, le temps est long, ils se mettent au lit aux alentours de 20-21 heures. Imaginez-vous une personne qui va au lit à 20 heures, déjà à minuit, a eu 4 heures de sommeil, à 2 heures du matin, déjà 6 heures d'affilée de sommeil. Ces personnes se réveillent au milieu de la nuit et ils disent, voilà, maintenant nous dormons mal, le sommeil est fragmenté, etc. Nous essayons pour régler, dans notre thérapeutique des troubles du sommeil des personnes âgées, d'essayer de les convaincre d'aller au lit un peu plus tard, si vous voulez, pour pouvoir un tout petit peu concentrer tout leur temps du sommeil dans une tranche d'heure entre 23h et 5-6h du matin pour que finalement ces fragmentations du sommeil. Mais maintenant, la deuxième raison, c'est aussi des levées fréquents pour aller, vous savez, pour les problèmes urinaires, etc., qui sont assez fréquents chez les messieurs après un certain âge, les problèmes de prostate, etc. Maintenant, il faut voir tous les aspects de ça en dehors des problèmes, si vous voulez, qui ne sont pas des problèmes, mais c'est le cours normal de l'évolution des neurotransmetteurs.
Et hormis cette question d'âge, il existe également des causes organiques qui peuvent susciter de l'insomnie. Il existe des maladies, des affections plus
Absolument.
Ou moins bénignes.
Neurologiques, par exemple, comme les maladies de Parkinson, l'Alzheimer. Il y a également dans d'autres maladies neurologiques, vous savez. Et oui, l'insomnie existe. L'insomnie est très fréquente dans beaucoup de pathologies, surtout en neurologie. Pourquoi ? Parce que les mécanismes qui sont responsables de la régulation du sommeil, même de la régulation d'un sommeil normal, ces mécanismes se situent au niveau du cerveau, au niveau des structures cérébrales. Et lorsque ces structures cérébrales sont touchées à cause des lésions, à cause des hémorragies cérébrales, à cause des maladies comme le Parkinson ou tout le système dopaminergique est touché, ou bien dans les maladies dégénératives, genre démence, genre la chorée Huntington, etc., etc., le sommeil est très rapidement altéré et perturbé.
Et c'est quel type d'insomnie qu'on peut constater ?
Ah, mais alors ça, ce sont des insomnies un peu de tous les types, aussi bien d'endormissement que du maintien, etc., etc.
Et alors, vous évoquez dans votre ouvrage des termes un petit peu barbares. Vous parlez de dysomnie et de parasomnie. Alors, qu'est-ce qu'une dysomnie ? Qu'est-ce qu'une parasomnie ?
Alors, ce ne sont pas des termes tellement barbares parce que ce sont les classifications des troubles du sommeil qui veulent ces terminologies. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Alors, il y a une différence, bien sûr, entre dysomnie et parasomnie. Si vous voulez, je commence par les parasomnies parce que ce sont des événements qui arrivent au cours du sommeil, les parasomnies. Forcément, les personnes qui ont ces manifestations ne se plaignent pas de l'insomnie,
D'accord.
curieusement. Alors, il y a 4 types qui sont très bien décrits, qui sont très bien étudiés. D'abord, c'est le cauchemar. Les cauchemars nocturnes, ce sont donc des scénarios de rêve assez effrayants. On appelle cauchemar. Pourquoi cauchemar ? Parce que le scénario doit être présent. Si la personne se réveille au milieu de la nuit, elle vous dit « je me suis réveillée avec une peur et une panique terrible, j'étais haletante, j'avais le cœur qui battait, mais je n'ai rien à raconter », alors ce n'est pas un cauchemar. Le cauchemar a un scénario bien précis, on voit des scènes effrayantes, et puis on se réveille, oh là là, on voit que… C'est La terreur nocturne, c'est autre chose. La terreur nocturne, c'est chez les enfants, ils se réveillent, ils n'ont pas de scénario, ils sont haletants comme ça, avec des battements cardiaques, etc. Il faut allumer la lumière et essayer un tout petit peu de les calmer. Maintenant, ensuite de ça, une troisième forme de ces parasomnies, c'est l'énurésie, vous savez, qui est pas très très fréquent. Mais il pourrait être donc arrivé. Et puis, il y a autre chose qu'on a vu souvent dans les films de cinéma d'autrefois, où on voyait une personne se lever du lit, avoir les deux bras devant soi et commencer à marcher, qu'on appelle ça le somnambulisme. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Nous avons essayé d'enregistrer dans notre institut des somnambules. La personne se lève, mais il n'a pas les bras devant pour marcher. Et c'est assez dangereux, ce somnambulisme, parce qu'une personne pourrait tomber, se cogner à une porte, à un mur. Et cette apparition se fait dans un stade très particulier du sommeil, qui est le sommeil lent profond. Donc, le stade 3 et 4. Ce sommeil lent profond est très abondant dans une tranche d'âge jeune et au-delà de 20 ans. Avec la diminution du sommeil lent profond, ces accès de somnambulisme, en fait, s'améliorent. Ça concerne les parasomnies.
Donc les parasomnies, ce n'est pas de l'insomnie, ce sont des manifestations qui surviennent pendant le sommeil.
Voilà.
D'accord.
Dans le sommeil, hein, dans certains stades du sommeil quand même.
D'accord.
Parce que les cauchemars, ils surviennent quand même dans le stade du sommeil paradoxal, disons.
Oui, mais ils n'altèrent pas la qualité du sommeil.
Non. Enfin, oui, parce que si vous avez peur, un peu. Mais les personnes ne se plaignent pas d'insomnie.
Alors, les dysomnies, elles ?
Alors, les dysomnies, il s'agit des troubles de la durée, de la qualité et de l'organisation, en fait, de votre sommeil, du sommeil. Alors, ces désordres pourront être intrinsèques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à quelque chose qui est arrivé à cause de votre environnement. Et c'est comme, par exemple, l'insomnie psychophysiologique. Pourquoi ? Parce que la personne apprend à mal dormir, de peur de ne pas s'endormir, elle apprend petit à petit à ne plus dormir du tout. C'est là où nous intervenons avec la thérapie cognitive et comportement dans cette forme de dysomnie. Parce que on essaye de leur désapprendre. C'est l'histoire du chien de Pavlov. Vous savez qu'avec le son du cloche, il y avait ces manifestations. L'insomniaque, c'est la même chose chronique. Lorsqu'il s'agit donc de cette forme de dysomnie intrinsèque. Ensuite, il y a les formes extrinsèques du sommeil. Ils sont liés à l'environnement de la personne qui se plaint de l'insomnie, donc. Et ce sont des causes qui sont complètement externes à l'organisme. Voilà. Par exemple, le bruit qui provoque des somnolences excessives.
On a évoqué le bruit tout à l'heure, justement. Il me semble que vous avez écrit 10% des gens voient l'origine de leur insomnie dans le bruit.
Oui, vous savez, dans nos habitations, dans notre vie moderne, il y a pas mal de bruit. Vous savez, en été, vous laissez la fenêtre ouverte, ce qui est obligatoire, alors vous avez beaucoup de bruit. Maintenant, il y a d'autres formes de dysomnie. Vous savez, c'est les troubles du rythme circadien du sommeil, parce que ce sont très importants. Il y a deux phénomènes qu'il faut retenir quand même. C'est le syndrome du retard de phase et le syndrome d'avance de phase. Que veut dire retard de phase ? Retard de phase, c'est le fameux jet lag ou d'avance de phase, parce que tout le monde l'a expérimenté avec des vols est-ouest ou par exemple des vols vers les États-Unis depuis l'Europe, etc. Les fuseaux horaires que nous traversons sont quand même assez importants et l'horloge biologique ne peut pas vraiment trouver un repère. Donc ça, c'est les décalages de phase. Maintenant, ce décalage de phase existe chez les jeunes personnes, existe chez les personnes qui vont très tard au lit. Ça existait dans la littérature chez Proust comme écrivain. Proust ne dormait pas du tout la nuit. Il travaillait, il écrivait, il faisait son courrier. Il allait au lit le lendemain à 11h du matin, à 14h, vous voyez. Il s'était mis dans un décalage de phase artificiel qui, quand même, l'ont mené à une insomnie assez sévère. Mais alors, pour l'avance de phase, vous savez, c'est la question des gens âgés, comme je vous ai dit. Les personnes vont au lit entre 19 et 20 heures. Alors, cette avance de phase, évidemment, provoque au bout de 4-5 heures un réveil parce que l'horloge biologique n'est pas conçue pour qu'on aille au lit si tôt. Sinon, c'est le problème de jet lag. Et ensuite, dans la société actuelle, il ne faut pas oublier ceux qui font un travail posté, voyez.
Alors, qu'est-ce qu'un travail posté ? C'est
travail,
des 3-8.
Voilà, ça correspond à ce que vous dites, le travail du type des 3-8. Chaque rotation impose donc, si vous voulez, en quelque sorte, des horaires de travail et de repos qui sont donc marqués par des déphasages qui sont aussi brutaux que quand nous traversons des fuseaux horaires.
Les études sur le sommeil sont très nombreuses, sur l'insomnie énormément. Encore plus. Oui. Les études récentes, vous l'évoquez, semblent montrer, alors vous allez pouvoir nous dire si ces études se confirment, oui, que l'insomnie serait cause d'obésité et de diabète.
Voilà, alors ce sont des travaux extrêmement récents, qui montrent que l'insomnie, en fait, pourrait déboucher sur l'obésité. Parce que longtemps, on a cru que les gens qui dormaient beaucoup pourraient devenir obèses par manque d'activité. Mais en fait, l'insomnie, pourquoi ? Parce que les gens deviennent anxieux, ils deviennent donc inquiets, ils compensent probablement. Et puis, il y a un dérèglement hormonal avec ça qui arrive et qui peut également déboucher sur le diabète.
C'est ce que j'allais
vous
demander.
C'est le problème de l'insuline, de la sécrétion d'insuline, etc., qui sont quand même un domaine très particulier des endocrinologues. Et voilà.
Il y a également le souci de la cortisol, me semble-t-il, qui règle le métabolisme.
Voilà, il y a le cortisol, il y a la CTH, il y a l'hormone de croissance chez les jeunes et également, vous savez, l'insuline, qui sont intimement liés avec les phases, l'alternance du sommeil lent, du sommeil paradoxal et de l'éveil.
Alors, ces études qui diraient que le diabète et l'obésité peuvent être causées par l'insomnie, bien sûr, ce n'est pas la cause unique
non.
de leur apparition.
Oui.
Mais est-ce qu'elles se poursuivent? Est-ce qu'elles
oui,
suscitent des polémiques?
Oui, voilà, elles se poursuivent. Il n'y a pas de polémique. Pour l'instant, il n'y a pas des études qui contredisent ces travaux. En améliorant donc, la qualité et la quantité du sommeil, on peut probablement améliorer donc, ces troubles organiques, qui sont organiques, en quelque sorte.
Ce sont des études qui sont menées en Europe, aux États-Unis.
Aux États-Unis.
D'accord. Alors, je précise également les États-Unis.
Il y a Van Cotter, si vous voulez que je vous donne le nom. Le nom, c'est une dame, Eva Van Cotter, qui travaille beaucoup à Washington. Vous savez, ces problèmes endocriniens et neuro-endocriniens qui sont liés aux troubles du sommeil.
Alors, est-ce que les États-Unis sont en avance sur nous dans
Non, pas du tout. Les Français ont fait de très bons travaux. Moi-même, lorsque nous étions au Collège de France, nous avons fait des travaux formidables. Il y a le professeur Jouvet qui est le premier qui a découvert donc le sommeil paradoxal. Non, pas du tout. Les Américains n'ont aucune avance sur nous. Nous sommes très bien.
Très bien. Même s'ils ont créé cette fameuse classification des troubles du sommeil qui est... Il me semble très peu usité.
Oui, mais cette classification des troubles du sommeil que vous avez vue dans mon ouvrage est peu utilisée parmi les cliniciens. Mais enfin, ça donne quand même une idée, un tableau.
D'accord,
oui.
Très bien. Moi, ça nous fait un joli petit tour d'horizon de l'insomnie. Alors, je rappelle que nous recevions aujourd'hui Zara de Saint-Hilaire, qui est docteur en neurosciences. Zara de Saint-Hilaire travaille au département de psychiatrie adulte des hôpitaux de Genève. Elle est également l'auteur du « Que sais-je » consacré à l'insomnie, que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans cette émission. Ce « Que sais-je » est publié aux Presses universitaires de France. Zara de Saint-Hilaire a également publié « Mieux dormir » aux éditions Hermann en 2006 et « Comment bien dormir ?» Vaincre les troubles du sommeil chez Plon en 1995. Zara de Saint-Hilaire, je vous remercie infiniment de nous avoir autant appris sur l'insomnie.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci.